Et notre invité ce matin, Daniel Spagnou, maire de Sisteron, président de l'intercommunalité du Sisteron-et-Buëch, président de l'association des maires dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe1. Depuis le mois de mars, le pays est secoué par la pandémie de coronavirus, Daniel Spagnou. Depuis deux semaines, c'est un confinement partiel, l'activité continue, mais pas celle des commerces dits non essentiels. Comment jugeriez-vous l'action du gouvernement? Selon vous, est-ce qu'il a appris de la première vague?
Ben écoutez, moi, j'ai été, comme beaucoup d'élus, très déçu par la décision qui a été prise de fermer les petits commerces des centres-villes et de laisser ouvert les grandes surfaces. Ça, je n'ai toujours pas compris. Alors, on laisse agglutiner des centaines de gens, tous ensemble, on l'a vu ici, à Sisteron. Et en même temps, il y a un petit commerce où, justement, on peut très bien respecter les gestes sanitaires, beaucoup mieux que dans les grandes surfaces. Là, ils sont fermés. Et donc, je fais partie des maires qui militent, et un président de maire aussi, qui militent pour le commerce de proximité, qui militent pour que le 1er décembre, dernier délai, ces petits commerces puissent réouvrir. Autrement, toutes les politiques qu'on a mis en place depuis des années dans les villes comme Sisteron pour revitaliser le centre-ville, eh bien, vont malheureusement péricliter. Et puis beaucoup de commerçants, moi je les vois tous les jours, j'en rencontre, il y en a qui viennent me voir, bien sûr, eh bien, ils me disent qu'ils ne vont pas supporter et qu'ils vont faire faillite. Alors, quel pays on est en train de préparer? Alors, certes, il faut respecter les gestes barrières, certes, il faut qu'on se batte contre le virus, mais je pense quand même qu'il y avait d'autres procédés que celui-là.
Par rapport aux bars, aux restaurants et aussi aux salles de sport, la réouverture ne sera pas le 1er décembre. D'ailleurs, elle n'est toujours pas évoquée par le gouvernement. Selon vous, eux aussi doivent rouvrir le 1er décembre?
Bien sûr, il faut qu'ils réouvrent. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a plus de monde, bien sûr, dans les bars. Les restaurants, non. Les restaurants, on aurait pu les laisser ouverts. Moi, j'ai l'habitude d'aller au restaurant tous les jours, pratiquement à midi. Et vraiment, les restaurateurs respectaient très bien. Là où il y avait 20 clients en temps normal, il n'y en avait plus que 5 ou 6 ou une dizaine. Donc, on était éloignés les uns des autres. Les bars, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, on ne peut pas laisser mourir tous ces commerçants. Vous vous rendez compte? Moi, j'en ai juste en dessous chez moi, là. Ça me crève le cœur de voir... voir tous ces commerces fermés et en même temps, alors je vous dis, à certains endroits, on accumule les gens les uns sur les autres sans que personne respecte rien. Là, franchement, moi, je ne suis pas content du tout. Et en tant que président des maires et avec l'aide de François Baroin, d'ailleurs, sur le plan national, on a lancé un appel au gouvernement et pour que vraiment il écoute le petit commerce, il écoute en même temps les Français et qu'on puisse réouvrir dès le 1er décembre avec bien sûr des protocoles et les commerçants sont prêts à les mettre en place, ils les avaient mis en place. Donc moi je suis persuadé qu'il faut qu'il y ait du bon sens. Et tout à l'heure j'ai écouté Madame Ségolène Royal, j'ai trouvé qu'elle a fait une très très bonne déclaration à la télévision où elle a évoqué tous ces sujets et je me suis dit tiens c'est dommage que le gouvernement ne l'écoute pas.
Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de la vaccination contre le coronavirus. C'est un peu la course en tête. Hein. L'américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont annoncé un vaccin efficace à 90%. Mais Sanofi s'est aussi positionné avec un vaccin qui pourrait être conservé dans un simple frigo, contrairement à son concurrent qui doit être placé à des températures très basses. Ce vaccin de Sanofi pourrait être distribué dès le mois de juin si les résultats des essais des phases 2 et 3 sont positifs. Est-ce que vous, Daniel Spagnou, vous savez d'ores et déjà si le site de Sisteron participera à sa fabrication?
Alors écoutez, là, je ne suis pas dans la confidence. Je savais bien sûr par la directrice de Sanofi, bien sûr que Sanofi, qui est un grand, grand laboratoire international, faisait toutes les recherches et j'étais très surpris de voir hier le PDG de Sanofi qui est venu parler à la télévision. Ça a été une bonne nouvelle, même si on est un peu en retard, bien sûr, par rapport aux autres grands laboratoires internationaux, mais je pense que c'est quand même bien que la France est un grand laboratoire qui va participer à ce vaccin. Et j'espère qu'il y aura des retombées. Il y aura des retombées sur toutes les usines du groupe Sanofi. Voilà, c'est sûr. Et puis en même temps, c'est l'image de Sanofi dans notre pays. Moi, j'ai été très heureux. Je me disais, mais comment ça se fait que Sanofi n'annonce pas qu'ils sont en train d'étudier un vaccin? Bon, c'est fait et on ne peut que s'en réjouir. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, à titre personnel, je ne fais pas partie des 50%, même plus de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je sais que dès que le vaccin sera prêt, je me ferai vacciner.
Et selon vous, est-ce qu'il faut rendre la vaccination contre le Covid obligatoire?
Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense que dans un pays comme le nôtre, on ne pourra pas le rendre obligatoire.
Alors, parlons de Sisteron. Vous parliez hein, de ce commerce et vous le disiez, moi, je ne peux pas les laisser mourir. Il y a une plateforme d'e-commerce qui a été mise en place pour les petits commerçants.
Oui, alors avec la... Bien sûr, on a fait un accord, un partenariat. On a beaucoup travaillé ces jours-ci avec l'association des commerçants et Nicolas Logier, qui est en même temps mon adjoint, donc qui facilite beaucoup les choses du commerce et de l'artisanat, avec la communauté de communes également. Et on a mis de l'argent... On a mis de l'argent pour pouvoir justement créer ce e-commerce qu'on doit lancer dans la semaine et on est prêt. Beaucoup de commerçants y ont adhéré. Ils vont faire un effort vraiment particulier, mais il est normal que les collectivités soient à côté de leurs commerçants. Il vaut mieux qu'on économise sur autre chose. Mais c'est là, en ce moment, où il y a un gros, gros problème. Donc, aidons-les. Et je crois que d'ailleurs dans toutes les intercommunalités, puisque les intercommunalités ont maintenant la compétence économique, je sais que ça se fait partout. La Chambre de commerce nous a réunis tous ensemble en visioconférence. Elle a fait tout un travail pédagogique aussi. Donc il y a quand même tout un mouvement qui se crée, surtout dans nos petites communes. Et d'ailleurs, l'annonce hier, vous allez peut-être en parler, des petites villes de demain, va aussi dans ce sens.
On va en parler, exactement. J'avais une question par rapport à Veolia. Je vous pose cette question. Que fait Veolia? Parce que la facture du traitement des déchets a augmenté en prévision de 40% pour 2021. Est-ce que vous avez eu des réponses du groupe qui pouvaient expliquer cette hausse, cette augmentation?
Non, on n'a pas eu de réponse. Vous savez qu'il y a eu une réunion qui a été organisée par le... qui a eu lieu à la Vatineuve il y a quelques jours. Il y avait toutes les intercommunalités de Hautes-Alpes qui étaient présentes, qui se mobilisent, parce que c'est pas normal. À un moment où, justement, on demande aux Français de faire un effort particulier pour l'environnement, où ils font cet effort d'essayer de faire le tri sélectif, par exemple. Eh bien, ce tri sélectif qui est rapporté aux intercommunalités, qui permettait, justement, d'investir dans la communication, par exemple. Eh bien, maintenant, non seulement Veolia ne nous donne plus rien, nous achète plus les produits recyclés, mais en même temps, on nous dit, mais peut-être qu'il faudra payer Veolia pour que Veolia accepte de les traiter. Mais c'est purement scandaleux. C'est pas possible dans ce pays qu'un grand groupe tout seul puisse obliger les collectivités à financer tout ça.
Quel levier vous avez pour vous y opposer?
On n'a pas grand-chose pour le moment. La seule chose qu'on peut avoir, c'est que l'État prenne ses responsabilités, qu'il ne laisse pas faire ça. Alors, on a bien sûr alerté le ministère de l'Environnement, on a alerté nos parlementaires, on va faire encore des manifestations, on a voté des motions un petit peu de partout. Moi, j'en ai fait voter une par mon conseil communautaire. Parce que c'est là, vous avez parlé d'une augmentation de 40%, mais l'année prochaine, on pense que ce sera 60%. Vous vous rendez compte, ça devient insoutenable, et insoutenable pour nous, les collectivités, mais surtout pour nos administrés, parce que c'est eux qui vont payer l'augmentation. Et l'impôt que l'on fait payer, mettant la taxe que l'on fait payer sur les ordures ménagères, est plus élevé que l'impôt foncier. Vous vous rendez compte, ça devient insupportable. Alors écoutez, c'est pas la peine qu'on nous dise tous les jours, il y a le plan climat, il y a toutes les mesures qui doivent être prises pour défendre l'environnement, ça c'est la position de l'État, mais on ne peut que l'approuver, mais en même temps on laisse faire des grands groupes comme Veolia, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ils bafouent la démocratie, ils bafouent les présidents des intercommunalités.
Ce qui a engendré un projet, créer une entité commune pour gérer les déchets à l'échelle départementale, donc avec les Hautes-Alpes, le Sisteronais, les Hautes-Alpes.
Oui, bien sûr, on est en train d'étudier tout ça. Ben, il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on ait des alternatives à tout ça. Donc, on a eu une première réunion, on en aura d'autres. Mais vraiment, c'est un problème très, très important, surtout dans les territoires comme les nôtres, éloignés. Vous savez, le ramassage des ordures ménagères coûte une fortune. On n'imagine pas d'ailleurs que dans le Sisteronais-Buëch, le budget des ordures ménagères, vous vous rendez compte, pour les 60 communes, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros de budget. Alors je comprends que c'est très juteux pour des grandes boîtes comme Veolia. Ça c'est ce qui bénéficie de tout ça. Ce sont ces grands groupes. Voilà, et comme ils sont seuls, ils font ce qu'ils veulent.
Et se regrouper ensemble pour une entité... public,
oui,
ça pourrait permettre de faire des économies.
Bien sûr, ça fait partie des idées que nous avons et qu'il va falloir avancer parce que c'est quand même compliqué. Il va falloir avancer dans ce domaine-là. On ne va pas se laisser faire, ce n'est pas possible.
Alors, vous le disiez, Sisteron a été retenu, on l'a annoncé dans l'actualité aussi, vient d'être retenu dans le programme Petite Ville de demain avec 8 autres communes des Alpes-de-Haute-Provence. En tout et en France, ce sera 3 milliards d'euros sur 6 ans pour dynamiser les centres-bourgs. Daniel Spagnu, est-ce que vous savez tout d'abord quelle somme va être attribuée dans les Alpes-de-Haute-Provence ou encore à Sisteron? Et puis, quel projet vous voulez voir sortir?
Alors déjà, pour le moment, il fallait être candidat. Donc nous, on a été candidat tout de suite. Donc je suis ravi et je remercie d'ailleurs même le préfet, mais je remercie aussi Christophe Castaner et Joël Giraud, parce que c'est partie des compétences de Joël Giraud en tant que secrétaire d'État à la ruralité, pour avoir retenu un certain nombre de communes de notre département, et tant mieux. Et rien que pour la communauté de communes, nous avons trois communes retenues. Nous avons Sisteron, Laragne et Serres. Donc c'est une bonne nouvelle. La ville de Sisteron, vous savez, a déjà fait de gros travaux dans son cœur de ville. On est en train d'en faire. Et d'ailleurs, l'idée qu'on a, j'en ai parlé avec ma préfète, c'est qu'on serve un peu d'exemple pour montrer un petit peu ce qu'on a fait déjà, nous, depuis 15 ans. C'est assez spectaculaire. Malheureusement, le Covid ne va pas nous arranger. Mais en tous les cas, tout ce qui a été fait est fait. Et donc, c'est-à-dire que... on aura surtout un accompagnement technique et financier. On ne sait pas encore du tout combien d'argent sera affecté pour les 6 ans par département. Mais je fais confiance à Joël Giraud pour faire en sorte que nous soyons quand même bien servis. Mais ce qu'il faut, c'est renforcer l'attractivité du centre-ville. Et moi, ce que je veux, c'est améliorer le cadre de vie dans les centres-villes. Parce que dans les centres-villes, on a des patrimoines extraordinaires. Ils sont là, les patrimoines. Et ces patrimoines ont été délaissés parce qu'on n'avait pas les moyens ces dernières décennies. Et là, je crois que l'action que moi je voudrais mener maintenant, puisque le gros de la dynamisation du centre-ville quand même a été fait, c'est justement d'essayer d'avoir un véritable programme de valorisation du patrimoine pour améliorer le cadre de vie des Sisteronais. Parce qu'on a fait revenir, nous, à Sisteron, de nombreuses familles. Vous savez qu'on a fait deux OPA qui ont très bien marché. Et on a fait revenir une centaine de familles dans le centre-ville. Mais encore faut-il maintenant que le centre-ville, dans le centre-ville, les familles qui sont là, qui sont revenues, qui font travailler le commerce local,
Elles
adhèrent au projet aussi.
Merci beaucoup Daniel Spagnu d'avoir été avec nous ce matin dans le 8:30. Je rappelle que vous êtes le maire de Sisteron, président de l'intercommunalité du Sisteron-et-Buëch et président de l'association des maires dans les Alpes-de-Haute-Provence. Merci.